Philippe, c'est un gros test de ce qu'on appelle le caractère pour le Canadien demain.
Ah, tout à fait. Tu t'en vas à Vegas après une défaite crève-cœur, disons-le, contre les Golden Knights hier. Perdre en prolongation alors que tu as la chance de prendre les devants 3-1 dans la série, ça fait très mal. Perdre en plus quand tu trouves que peut-être que les arbitres t'ont pas traité correctement. Tu sais ce que j'en pense, on en a parlé tantôt, mais l'équipe, elle considère très certainement qu'il y a des punitions qui n'ont pas été données, qui auraient dû l'être. Alors, il faut vraiment que tout le monde se regroupe. Pas facile non plus quand ton entraîneur-chef n'est pas là, qui est à la maison. Tu sais, tu regardes la somme de défis avec lesquels le Canadien doit composer depuis le début des séries éliminatoires. C'est quand même assez renversant. Mais l'équipe s'en tire bien jusqu'à maintenant. Il y a un chiffre qui est absolument étonnant. C'est le travail du Canadien en désavantage numérique. Le Canadien ne permet pas de but. Dans les 27 dernières occasions où l'adversaire a eu un avantage numérique, ben le Canadien a réussi à les blanchir. Ça a commencé avec les trois derniers matchs contre les Maple Leafs de Toronto, les quatre contre les Jets de Winnipeg et là, les quatre contre Vegas. Alors là, tout à coup, tu as toujours cette loi-là, la loi de la moyenne. Tout à coup, il y en a un qui va finir par passer. On ne peut pas continuer comme ça encore très longtemps. Mais qui sait, parce que dans le fond, la statistique, l'équilibre des choses aurait peut-être être voulu que contre Vegas, déjà, on donne un but. Mais non, on réussit à tenir le bout. Alors, tout ça en dit très long également sur le travail de Carey Price. Tu sais, tu vois très bien les joueurs de Vegas qui, en avantage numérique, précipitent un petit peu leurs gestes. Mmh. Et donc, ce joueur-là est rentré dans leur tête. Là.
C'est ce qu'on appelle un joueur qui joue dans la tête de l'adversaire parce qu'on va chercher un tir parfait.
Exactement.
Il a cherché des tirs parfaits, ben, tu lances pas au but.
Ben, c'est ça. Tu lances un peu trop, un peu à gauche, un peu à droite, tu frappes un poteau. Je veux revenir aussi sur un autre élément du match d'hier, c'est le gros jeu de Max Pacioretty en prolongation. Parce que, bien sûr, c'est Nicolas Roy qui a marqué le but, mais quand on regarde bien la séquence, là, on voit que c'est Pacioretty qui transporte la rondelle, qui la lance devant le filet. Il a fait un très bon jeu et ça, pour lui, au niveau de la confiance, ça doit être très important parce qu'il n'avait pas joué du super gros hockey depuis le début de la série. On sait que contre le Canadien, pour lui, c'est très émotif. On se demande tous s'il va réussir à jouer à la hauteur de son talent. Depuis le début, on n'avait pas de réponse claire à cette question-là. Disons, c'était plus non que oui. Mais là, avec ce jeu-là, j'ai l'impression que peut-être que Pacioretty aura des ailes lors du prochain match. Parce que là, il sait une chose. Il dit, hey, j'ai vraiment rendu service à mon équipe. J'ai vraiment réussi un gros jeu au moment opportun. Bien sûr, ça passe un petit peu dans l'ombre, mais c'est lui qui le fait. Chez le Canadien, il y a un autre joueur qui continue de jouer du hockey absolument extraordinaire, là, Paul Byron. C'est absolument fantastique, son rendement en série. Quand tu penses que ce joueur-là, le Canadien l'a mis trois fois pendant la saison au balotage. Les autres équipes auraient pu le récupérer. Elles ne l'ont pas fait en raison de son contrat. Ils trouvaient qu'il était trop payé. Pas l'air trop payé aujourd'hui. Là.
Philippe, il a vraiment trouvé le chemin de la cachette de la potion magique.
Oui, tout à fait. Puis pour lui, c'est quoi la potion magique? C'est le patin. C'est un joueur extrêmement rapide. Puis quand il réussit à mettre son patin à profit comme ça, il est capable de jouer du bon hockey. C'est un gars qui a du flair avec la rondelle. On l'a vu sur le but gagnant contre Vegas au match numéro 3.
Philippe, en parlant de patin, je dois te dire, moi j'étais pas sceptique face à Cole Caulfield. Okay? Tout ce que je me disais, puis je l'ai dit quand on en discutait là, cet hiver, attendons de voir. T'sais, je comprends qu'il est précédé d'une belle réputation et des mains incroyables. J'en reviens pas que ce jeune homme-là, à 20 ans, avec son gabarit, disons, qui détonne dans la Ligue nationale, s'impose comme ça. Je veux dire, il est d'un calme, d'une maîtrise. Il a l'air d'avoir 8 ans d'expérience. Ouais. Puis de mesurer 6 pieds 1.
Exactement. Je suis pleinement d'accord avec toi. Puis moi, j'avais des doutes sur un gars comme lui en séries éliminatoires. Parce que je me souviens de Johnny Gaudreau avec les Flames de Calgary, qui est pas un gros joueur non plus. Puis très, très bon, très rapide, excellent avec la rondelle. En séries éliminatoires, quand l'adversaire commence à le frapper, on l'a vu il y a 2 ans contre l'Avalanche du Colorado, il perdait tous ses moyens. Alors, Caulfield, soit on n'est pas capable de le frapper, mais il évite les coups. Manifestement, il y a du flair.
OK, Philippe, on va interrompre ta chronique parce que je rappelle aux auditeurs qu'il y a une tornade qui a frappé à Mascouche. Et là, les témoignages commencent à rentrer. Une auditrice est au bout du fil. Elle nous a contactés pour nous raconter ce qu'elle a vu. Salut, Cathy.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler. Merci de nous parler. Qu'est-ce que vous avez vu?
Bien, en fait, moi, j'étais dans mon bureau. Je voyais les champs alentours. Et là, j'ai vu vraiment une tornade passer. Ça l'a passé comme proche de la 25 Nord, à la hauteur de Mascouche, chemin Saint-Pierre. Puis, dans le fond, mon beau-frère habite juste de l'autre côté du viaduc. Puis, lui, sa rue, la rue Louvain à Mascouche, a vraiment été touchée. Là, il y a beaucoup de dommages. On voit des gros, gros arbres qui ont été déracinés. Les poteaux d'hydro ont été arrachés. Des bouts de maison. Il y a vraiment beaucoup de dommages. Là.
Racontez-nous quand vous étiez là, assise à votre bureau, qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça se dessinait?
Ben en fait, le ciel est devenu noir, noir, noir. Et là, on a vraiment vu un entonnoir là, se passer. Ça a quand même été rapide, mais quand même, c'est assez impressionnant. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui volaient dans les airs. Là, beaucoup de papier. C'est quand même assez loin, mais c'est quand même assez impressionnant à voir. Là.
Ben merci de nous avoir contactés. C'est très gentil. Merci beaucoup, Cathy.
Ça fait plaisir. Merci à vous. Bye-bye.
Salut, à la prochaine. C'est Cathy, une auditrice de Mascouche. Ben là, ça se confirme. J'en parlais en début d'émission. Là, on avait quelques témoignages, mais là, je le vois aussi sur les réseaux sociaux. J'ai relayé sur Twitter là, une image filmée par un enfant. Je ne sais pas si c'est une petite fille. Je pense que oui, qui commente, là, qui dit « Regardez les gens, il y a une tornade. » Et semble-t-il que les débris autour du tunnel de vent comme ça là, étaient apparents. Philippe, on va revenir à ta chronique, si tu permets. Dernière nouvelle sur Wilfried Nancy, qui est l'entraîneur de l'Impact. Il n'est pas content.
Ben, l'Impact ou le CF Montréal. Hein? C'est le nom officiel, l'Impact. Patrick, maintenant. Alors, Wilfried Nancy, aujourd'hui, qui a parlé aux journalistes et puis il a expliqué, là, il y a un bon article sur le site de TVA Sport qui était vraiment pas content du privilège. Mais en fait, il trouvait que le CF Montréal n'était pas traité équitablement face au privilège que reçoit le Canadien et la Ligue nationale de hockey de pouvoir ainsi jouer devant 3500 personnes à l'intérieur, de pouvoir franchir la frontière. Nancy voit vraiment une iniquité assez grave. Il utilise des mots quand même très forts. Il dit que c'est illogique et aberrant qu'on subisse ça, étant donné qu'on est vacciné. Eux autres, au fond, l'Impact, ou le CF Montréal, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir s'entraîner à tout le moins à
Montréal. Philippe, c'est très difficile de le contredire.
C'est très difficile de le contredire, puis c'est très difficile aussi pour les athlètes olympiques. Là, on sait qu'il y a une entente là, qui vient d'être faite avec les gouvernements, mais tu sais, c'est une entente qui est tellement pleine de contraintes, puis la Ligue nationale de hockey, elle, a eu le droit manifestement à un prix village immense. Puis tu as vu ce que le directeur général des Knights de Vegas a fait. Hein. Il a cité un match, le match numéro 3. Il n'a pas porté son masque pendant le match. Et puis hier, on a appris qu'il avait testé positif pour la COVID. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, puis tu dis c'est comme ça que la Ligue nationale, qu'un employé de la Ligue nationale qui pourtant aurait dû être bien prévenu que des comportements comme ceux-là seraient intolérés, ben non.
Très bien, merci Philippe. Au retour, on va parler avec Véronique Cloutier de... Écoutez, c'est pas un projet showbiz comme tel, c'est une expérience personnelle. Elle va nous parler de ménopause.
De ménopause dans un documentaire que j'ai trouvé très, très intéressant. C'est pas juste une affaire de femme.
16:36.